au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Bonjour, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Shalom, assalam alaikum et exceptionnellement guten tag. Nous sommes le mardi 2 mai 2023, il sonne 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous, chers et fidèles et bienveillants auditeurs du club de la presse sur Canal FM Lomé 66 environ, mais également sur le groupe des médias partenaires Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Daoul à Bassa, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapan, mais également dans le monde entier, l'ensemble des radios aux canaux et autres applications numériques par lesquelles vous êtes en communion avec nous. Nous saluons les techniciens. Aujourd'hui, c'est le duo Thomas Datevi et Gérard Kodjo Akucha. Eh oui, nous sommes le 2 mai, nous sommes déjà dans le cinquième mois de l'année civile 2023 et c'est l'année scolaire qui tend vers la fin. Dans quelques semaines, la série des examens de fin d'année va s'ébranler avec le bac 1 ou le probatoire et puis tout le reste. L'occasion pour nous de demander à nos enfants, à nos chers et frères, frères et sœurs, que de commencer à bien se préparer pour les examens officiels de fin d'année. Nous reprenons le studio aujourd'hui au lendemain de la fête du travail. Hier, le travail a été honoré, les travailleurs ont été célébrés. Nous allons revenir là-dessus. Tout comme nous sommes au quatrième jour du recensement électoral dans la première partie du Togo. Si on a fait le tour ici et là, comment ça se présente ces opérations? Pendant que le CAR a du mal à redémarrer, c'est le comité d'action pour le renouveau qui s'est retrouvé pour le tout premier congrès après la mort de son père géniteur. Vous savez, nous savons ce qu'il en a été le week-end dernier. Et puis, nous sommes mardi, nous allons parler naturellement culture. Voilà le menu du Club de la Presse avec au studio Sam Alnas Teterou Djobo. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de la nouvelle génération.
C'est le directeur du journal L'Éveil de la Nation avec à ses côtés Isidore Sassou Atialo Akolor de Actu Express. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour confrères au plateau. Et bonjour à l'invité, bonjour à toutes et à tous.
Notre invité que nous allons découvrir tantôt, le temps que nous terminons le tour des confrères avec Eric Hugues Pakoudjo Johnson de l'Union. Bonjour. Merci. Et comme c'est une tradition, nous démarrons toujours le Club La Presse par une pensée du jour. Aujourd'hui, c'est nos amis de Liberté qui nous donnent cette phrase à la page 3. Elle dit « La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. » En fait, c'est une phrase de Albert Einstein. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Notre invité qui est à nos côtés, c'est Maître Kofi Dossou. Bonjour, Monsieur Dossou.
Bonjour, Sass. Bonjour aux auditeurs.
Et auditrices. Eh bien, notre invité, Maître Kofi Dossou, est un peintre. Il est graphiste. Il est web designer. Il est également consultant et enseignant en communication visuelle et interculturelle. Nous avons appris que aujourd'hui à 19h aura lieu un vernissage au Goethe-Institut. Il va s'en suivre une exposition qui court jusqu'à la mi-mai. Nous avons voulu en savoir davantage et nous avons invité M. Dossou qui est à nos côtés. M. Dossou, rebonjour et merci pour votre disponibilité.
Merci à vous pour m'avoir accueilli dans votre émission.
C'est un plaisir et un honneur. Donc, ce soir à 19h aura lieu le vernissage qui va continuer par l'exposition intitulée « Émotions ancestrales ». C'est vous l'artiste, le peintre, le graphiste et le consultant, le web designer, Maître Kofi Dossou. Que peut-on savoir de votre parcours? Je sais seulement que vous êtes né d'un père togolais, d'une mère nigériane, mais vous êtes aujourd'hui un grand monsieur de l'art. Votre parcours, s'il vous plaît, monsieur Dossou.
Ben, c'est un parcours très simple. Je suis né au Niger, comme vous avez dit, d'un père togolais et d'une mère nigérienne. Et j'ai vécu au Bénin, à Porto Novo, ensuite à Cotonou, en suivant un peu les déplacements de mon père. Et puis je suis arrivé à Lomé où je suis rentré au collège Saint-Joseph, premièrement. Et puis c'est là que j'ai rencontré M. Peglo, le maître Peglo qui m'a un peu enseigné comment dessiner. Bon, je dessinais déjà pas mal depuis mon bas âge, mais je n'avais aucune technique. C'est là que M. Peglo m'a enseigné les premières techniques. Mmh. Ensuite, je suis rentré au lycée de Tocoin où j'ai rencontré le professeur Paul Haï.
Ah oui, le grand maître.
Le grand maître Paul Haï qui m'a dirigé carrément vers une profession de l'art. C'est lui qui m'a encouragé à aller en Europe pour faire l'Académie des Beaux-Arts qui n'existait pas encore en Afrique de l'Ouest. Et donc, je suis allé en Italie et là, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fini en 83 et j'ai commencé à travailler dans le secteur publicitaire, dans un grand studio publicitaire, et j'ai continué jusqu'à ouvrir mon propre studio de publicité. Et voilà.
Et voilà, je note également que vous avez avec à votre actif plus de 70 expositions que vous avez conduites vous seul ou bien ensemble avec d'autres confrères artistes. Eh bien, dites Monsieur Dossou, d'où puisez-vous vos inspirations pour vos tableaux, pour vos œuvres?
Ben, je dois dire que je suis un grand observateur et ce qui m'a attiré au premier abord, c'était les pagnes, les pagnes du grand marché de Lomé. Je dois dire que au Niger, je n'avais pas cette vision-là des couleurs parce que c'est un environnement assez, comment dire, un peu tiède,
fermé. Hein.
Fermé. Donc j'ai dû arriver à Cotonou et voir le premier marché à Dantopa et être fasciné par les couleurs des pagnes. Et ensuite, en venant à Lomé, Je suis rentré au Grand Marché de Lomé, qui est vraiment un sanctuaire des couleurs. Et ça, ça m'a galvanisé. Et j'ai commencé vraiment par me cultiver sur les couleurs. Et c'est ainsi que j'ai eu cette inspiration de me concentrer sur pratiquement les formes et les couleurs. C'est ça.
Les formes, les couleurs, ce qui nous conduit à cette question. Est-ce que les œuvres de Maître Kofi Dossou ont un style?
Oui. Je me retrouve dans un style que j'ai créé à partir des choses que j'ai vues. Par exemple, à Porto Novo, j'ai été frappé par les égouts, les angbetos, et ainsi de suite. Et donc, j'ai commencé par, en quelque sorte, me concentrer sur ce genre de mélange de couleurs que je trouvais dans les accoutrements des différents égouts. Et donc, j'ai développé un peu ce style-là. C'est ce que vous trouverez dans mes derniers tableaux, par exemple.
Oui. Les couleurs qui puisent de vos origines, d'où ce nom, émotion ancestrale que vous donnez au vernissage qui aura lieu ce soir. Ça. Après, l'exposition sera ouverte jusqu'au 17 mai prochain. C'est alors, ça. Maître Kofi Dossou, qu'est-ce qu'on aura à découvrir en avant-première aujourd'hui et durant les deux semaines à suivre au Goethe Institute, naturellement?
Oui, vous découvrirez un style complètement différent de ce qui est à la mode maintenant, parce que c'est un style qui est propre à moi et que j'ai inventé, j'ai créé de toutes pièces. Donc c'est un peu une surprise que je vous réserve ce soir.
Une surprise qu'on pourra découvrir ce soir déjà lors du vernissage et durant les deux semaines à venir.
C'est ça.
Cette position qui sera ouverte tous les jours, ouvrable si on peut se permettre cette tautologie.
C'est ça.
Au Goethe Institut qui n'est plus à présenter. Voilà, et merci Monsieur Dossou de vous déplacer pour nous présenter en avant-première votre vernissage et l'exposition qui va s'en suivre. Mais, oui, Isidore?
Non, d'abord, j'avais eu à entendre parler de lui, mais aujourd'hui je le vois, je me disais que il est tellement simple que...
Ça, c'est la magie du club de la presse.
Il est tellement simple que, bon... il a voulu bien parler de lui, et parce que ses tableaux sont très cotés, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Bon,
non, il a tout dit. Il a dit que c'est une surprise qui nous réserve à nous qui allons nous déplacer au Goethe.
Parce qu'on ne l'a jamais cité dans des grands, parmi les grands peintres et autres là. Donc... c'est une surprise, mais il a dit qu'il a eu le déclic à partir de, comment dirais-je, et des couleurs, des pagnes. Bon, oui. La question que j'aimerais lui poser, est-ce qu'il lui arrive une fois d'être sollicité pour faire les motifs des Nana Benz à l'époque? Parce qu'à l'époque, je sais très bien que c'est les Nana Benz qui propose les motifs et passe les commandes à Wassoul. Est-ce que vous est arrivé?
Oui, il m'est arrivé, quand j'étais au lycée de Tourcoing, d'avoir une requête, de créer une maquette. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est, j'ai créé la maquette, je l'ai donnée à la personne qui m'avait sollicité, mais il n'y a plus de suite et je n'ai pas bien appuyé la chose, je n'ai pas voulu... comment dire, j'étais encore un garçon, donc je n'avais pas cette force d'aller j'étais un peu timide, quoi.
Mais est-ce que non, mais tout suivi. Simplement parce est-ce que vous n'étiez maquette... pas bien encadré, c'est tout. Ça,
est-ce
c'est
que la maquette a pu aboutir? Est-ce que vous avez vu ces pagnes-là sur le marché?
Non.
Eh bien, dit, comme exactement. Il dit, il était élève à l'époque, mais aujourd'hui, l'artiste est confirmé qu'il est. Hein, il s'occuperait mieux après... de son œuvre aujourd'hui. Oui, alors, pour revenir...
Il dit qu'après...
Mais oui, après, j'ai été sollicité par le professeur Paul Haye. Quand on construisait l'hôtel de la paix. Okay. Et là, il m'a demandé de faire certains dessins qu'on a mis dans les chambres.
Okay.
Voilà. Une anecdote que je peux vous raconter, c'était quand on a fini le travail, j'étais en classe de première au lycée de Tourcoing, et il m'a demandé de faire des dessins, j'ai fait les dessins, et le jour de l'inauguration de l'hôtel de la paix, il m'a remis une enveloppe avec 91 000 francs.
À l'époque.
Et j'ai commencé par trembler parce que je me suis dit, comment est-ce que je vais présenter cette histoire à mon papa? Il va sûrement dire que j'ai volé l'argent quelque part. Il ne va pas croire que c'est un dessin qui m'a donné tout cet argent. Lui, il ne gagnait pas aussi...
Voilà. Le vernissage émotion ancestrale ce soir 19h. Vous aurez à découvrir des tableaux comme Faux Paradis et comme Égout à Porto Novo, comme Le Sommeil de l'Amazone, comme L'Humanité et bien d'autres tableaux. Et vous rendrez compte que Monsieur Dessous, il a les pieds vraiment fichés dans le terroir ancestral dont il s'inspire pour ses œuvres. Et Eric,
Maître Dessous, je voudrais vous demander, pendant qu'on sollicitait les artistes pour faire des fresques dans la ville de Lomé, vous n'étiez pas...
Je n'étais pas au pays.
Je n'étais pas au pays.
Ok.
Bon, je vis en Italie depuis 43 ans.
Ok.
Et j'ai eu peu de contact avec le monde artistique togolais.
D'accord.
Et parce que j'étais très occupé à enseigner, à peindre, à faire des expositions un peu partout. Donc, je n'étais vraiment pas dans le bain au pays.
D'accord. Merci, Souffré. On ne m'a pas vidé, monsieur l'artiste Dessous. C'est juste une présentation. Si vous voulez le connaître davantage, à partir de ce soir, 19h, au Goethe Institut. Mais vous, Eric, c'est une tradition, l'Union qui nous produit toujours des articles de culture. Je vous remercie, vous félicite. Aujourd'hui, par exemple, vous nous parlez de ce projet dénommé Héritage Visuel, qui est en fait le fruit d'une résidence artistique de 4 artistes du Bénin.
4 artistes béninois. Et un artiste togolais qui s'appelle Daté Amouzou. Donc il s'agit d'une résidence artistique qui va se faire en 3 phases. Donc il y a eu la phase de recherche, il y aura une exposition, un vernissage qui va commencer demain.
Demain 3 mai.
3 mai, et c'est à Woyomé.
Ouais.
Woyomé dans les plateaux. Et donc, après, ces artistes-là sont en train de mener des recherches. C'est en lien justement avec ce que fait Maître Dessous. Mm-hmm. Parce que c'est des recherches qui se font sur l'art visuel africain. Et ils sont en train de mener des recherches pour voir quel est le lien aujourd'hui entre cet art visuel africain et le temps que nous vivons, le contemporain. Et maintenant, par rapport à la mondialisation, qu'est-ce que cela représente et qu'est-ce que nous pourrons puiser de cet art visuel africain. Je pense que c'est un truc très intéressant qu'il faut véritablement vivre.
Voilà, ce projet dénommé Héritage Visuel, comme l'article écrit, ce projet propose une recherche philosophique, anthropologique et sociologique pour comprendre l'impact de la mondialisation sur l'image et inversement, l'impact de l'image sur la mondialisation. C'est à découvrir à Onyomé, c'est dans les plateaux. C'est pas Onyomé, le quartier de la France à Badouzi.
Je crois que c'était à côté. Il y aura également une conférence de de réflexion thématique,
oui, hein,
sur l'art visuel en général, mm-hmm, en Afrique.
Merci. Nous continuons et terminons avec cette slameuse camerounaise du nom de Dolly Sorel Nwafo, mais qui est beaucoup plus connue sous le pseudonyme Lidol, qui est artiste, slameuse, auteur, compositeur, qui se produit le 5 mai, vendredi, à l'Institut français du Togo.
Oui, c'est une slameuse très talentueuse camerounaise qui va partager son univers avec le public togolais. Vous savez, elle a eu à prester avec beaucoup d'artistes, même de grandes figures musicales africaines. Et donc, c'est elle qui est invitée pour ce show slamique très poétique à l'IFT de Lomé.
Voilà la page culturelle qui est bien riche, hein, Maître Dossou Kofi, qu'on va découvrir à partir de soir et jusqu'au 17 mai au Goethe Institute avec ses émotions ancestrales qui va sûrement nous communiquer. Mais attention de ne pas tomber en transe, hein. Et puis, il y a cette résidence des artistes qui livrent ses œuvres à Ognomé dans les plateaux. Et puis, vendredi, nous pourrons admirer la slameuse Dolly sur scène en Institut français du Togo. Je ne demande pas à Sam Diobo s'il n'a pas déjà l'embarras du choix entre Maître Kofi Dossou, entre
le projet héritage visuel
héritage visuel ou la slameuse camerounaise.
Bon, pour ce qui est de l'activité hors de Lomé, ça va être compliqué, mais en ce qui concerne l'Institut Goethe et l'Institut français,
oui
pour l'Institut Goethe et l'Institut français, on va toujours s'organiser pour y être. Parce que Maître Dossou, il faut le rappeler, c'est un Togolais, il fait la fierté de notre pays. Ça fait 43 ans qu'il n'est pas là. Aujourd'hui, il est venu. Il faut quand même qu'on y aille pour découvrir ce dont il est capable. Et peut-être ça peut être même une source d'écriture pour les journalistes ou bien une source d'analyse pour inciter d'autres Togolais à lui emboîter le pas.
Merci. Sans transition, hier, c'était le 1er mai, la journée internationale du travail. L'occasion pour nous d'honorer le travail et de célébrer les travailleurs que nous sommes. Et nous sommes tous travailleurs, hein, du président de la République, hein, au balayeur de rue, hein, chacun doit se célébrer en même temps que nous honorons ce travail. Donc nous avons appris au collège que le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. C'est le travail qui nous donne notre réelle indépendance. Et Sam Diobo, nos ancêtres ne sont pas trompés. Quand ils ont mis comme premier mot pour la devise du Togo, c'est
travail.
Travail pour conforter la liberté et battre la patrie.
La patrie, il faut toujours travailler.
Alors, à se demander si les Togolais travaillent toujours, s'ils travaillent toujours beaucoup, s'ils travaillent toujours bien, s'ils travaillent toujours vite. Mais chacun répondra, n'est-ce pas, Isidore? Chacun répondra.
Oui, le Togolais travaille, hein, ça il faut.
Non, je sais que nous travaillons, est-ce que nous travaillons encore?
Nous
Est-ce que nous travaillons beaucoup? Est-ce que nous travaillons bien? Est-ce que nous travaillons vite?
Nous travaillons beaucoup, mais nous gagnons peu.
Non, commençons pas à travailler, le salaire attendra toujours. Mais toujours, non, mais que hier.
Non, c'est vrai que nous travaillons. Par contre, je crois qu'aujourd'hui, comme il a parlé d'argent, l'argent dévance le travail que nous effectuons. Ça, aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a une démission des Togolais en ce qui concerne le travail bien fait. Les gens sont beaucoup plus préoccupés par leurs conditions de vie que par le travail qui doit logiquement leur apporter quand même le mieux-être. Je vais décevoir peut-être les gens en disant que quand vous allez dans des ateliers aujourd'hui, vous trouvez peu de jeunes qui viennent apprendre. Pourquoi cela? Les gens viennent, ils disent « je veux apprendre tel métier ». Ils ne finissent pas, mais dès qu'ils ont les petites notions, ils ne finissent pas le temps du travail, le temps d'apprentissage, et ils vont ouvrir leur propre atelier. Et quand vous leur commandez quelque chose, ma foi, vous êtes déçus. Et je crois qu'il faut encourager aujourd'hui les gens à aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire.
Oui, tu as raison, mais nous aurions beaucoup à dire de nos artisans. Hein, mais ce n'est pas le chapitre aujourd'hui. Mais revenons sur le travail en général. Et je crois que Isidore a raison. Si on travaille, il faut que le salaire suive. Suivez mon regard des gens qui sont dans leur troisième, dans leur quatrième, dans leur cinquième, dans leur sixième mois sans salaire. Il y a de quoi que cela rouspète un peu. Mais ils sont toujours à l'œuvre. Suivez bien mon regard. Eh bien, hier, nous avons honoré le travail, nous avons célébré les travailleurs. Et ça a été riche un peu partout. Et la littérature de la presse aujourd'hui en fait cas. L'Union qui écrit, célébration du 1er mai 2023, le gouvernement et ses partenaires sociaux en toute intelligence. Et cette année, le gouvernement et ses partenaires sociaux se sont retrouvés au cours d'une table pour échanger, pour partager les traditions. Ils ont évalué en partie ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Et même les centrales syndicales ont reconnu les avancées, les petits efforts faits réellement, faits récemment, mais il n'empêche que les doléances sont toujours là, qu'elles ont remises au gouvernement par l'intermédiaire du ministre du Travail et du Dialogue Social. Et une réponse optimiste, Gilbert Bawara, qui donne rendez-vous aux partenaires pour se retrouver déjà courant de ce mois de mai, pour plancher, continuer à réfléchir sur les doléances que les travailleurs ont remises aussi bien au gouvernement qu'à leurs employeurs. Voilà le côté officiel, mais un peu partout, de la présidence de la République au bureau des ateliers, c'était la fête hier. Même si c'était les apprentis, notamment couturières et tresseuses,
qui ne coiffeuses, vraiment pas
qui s'étaient faites les grandes vedettes. Mais Isidore Akolo, la fête du travail a eu lieu hier.
Évidemment, et vous parlez des tresseuses, des coiffeuses et des couturières. Bon, on peut dire que bon, elles autres sont des apprentis, donc c'est des travailleurs.
Mais elles fêtent beaucoup plus que,
oui,
que tout le monde.
Mais là, je me suis un peu gêné. C'est nos vendeuses, nos mamans qui vendent du maïs et qui vendent de la tomate. Mais c'est pas, elles sont des salariés.
Mais elles travaillent. Elles s'emploient, elles se payent.
Non,
et elles réalisent
quelque chose. Ce que je voulais dire par là,
la
célébration du 1er mai est galvaudée. Est galvaudée dans le sens que, bon, en pratique, c'est une journée pour les ouvriers. C'est pour les ouvriers. Les employés qui font leur doléance à leur employeur. Bon, toi, tu es dans le secteur, privé, mais
informel.
Non seulement informel, mais tu peux aussi. Tu es une vendeuse ou une revendeuse.
Oui.
Bon, tu t'auto-emploies.
Oui,
auto-emploi.
Mais voilà. Justement, elle s'auto-emploie et elle s'auto-félicite.
Non. Elle a le courage de pouvoir expliquer les choses. Et à partir d'aujourd'hui, elle commence à se cotiser, pour le 1er mai à venir. Elles choisissent les pagnes. Mais je me dis, mais au moins cet investissement peut leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires. Peut-être, c'est pas ce qu'on va le dire. Mais
bon, le débat peut être ouvert, mais Sam Diobo, comme j'ai dit,
c'est
la journée internationale du travail. Peut-être que le mouvement revendicatif est parti d'une usine, mais aujourd'hui c'est le travail dans sa globalité que nous célébrons, que nous honorons.
Non, moi je pense que tous ceux qui exercent une activité devraient pouvoir s'arrêter le 1er mai et célébrer le travail qu'ils font. Et c'est à cet exercice-là que se prêtent tous les secteurs d'activité, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas travailler 365 jours sur 365 et ne pas s'offrir un petit moment de détente. Et qu'on soit apprenti couturière, apprenti tailleur ou apprenti cordonnier, je crois que le moment est bien indiqué pour que chacun s'arrête. Pour le cahier de doléances le traditionnel cahier de doléances que les centrales syndicales présentent au gouvernement. Je crois que ça se fait pour le compte de tous les travailleurs, parce que quand on prend le cahier de doléances, chaque travailleur s'y retrouve dedans. Et le matin, ça a été fait avec le gouvernement. Vous faites bien même de rappeler que le ministre Gilbert Bahora s'est entretenu avec l'ensemble des centrales syndicales pour essayer de plancher ou de réfléchir sur le travail dans son ensemble. Maintenant, au niveau de beaucoup de structures, il y a eu du mouvement hier. Qu'on soit dans des ministères ou dans des sociétés et d'État ou para-étatiques, même au niveau de la présidence de la République, où après 3 années de non-célébration pour cause de Covid, on ne va pas rappeler tout le scénario, tout le Bataclan qui a empêché les gens de connaître une bonne festivité au niveau de la présidence de la République, du premier salarié au dernier, hier ils se sont retrouvés, pour célébrer dans la communion et rappeler un peu les conditions que le chef de l'État, parce qu'il a toujours à cœur le travail décent pour tous les Togolais. Il a l'habitude de dire, et c'est une réalité d'ailleurs, que ce n'est pas l'État qui offre de l'emploi, mais l'État crée de meilleures conditions pour que le secteur privé puisse créer des emplois décents pour les Togolais. Et hier, dans la célébration, on a senti que les gens, les 2 ans de Covid, ou les 3 ans de Covid, ont empêché les gens de jouir beaucoup des fruits de leur labeur. Hier, on l'a senti dans tous les quartiers.
Et les gens se sont rattrapés hier.
Ils se sont rattrapés, que ce soit dans l'excès en nourriture ou dans l'excès en autre chose.
En quoi, mais, par exemple?
Bon, un peu de boisson aussi.
C'est pas un peu. Voilà, Eric, la fête a été dans les institutions de l'État, dans les sociétés libérales, dans les informels, dans les usines, ceux qui le pouvaient, ceux qui ont mis un an pour cotiser, comme le disait tantôt Isidore, et se sont offerts un moment de retrouvailles, de loisirs.
Je pense que quand on parle du monde du travail, tout le monde est concerné. Dès que vous avez l'âge de pouvoir travailler, c'est-à-dire que vous faites de la production pour aider quand même l'État à mieux fonctionner. Je crois que les gens sont organisés dans tous les secteurs en groupe organisé. Excusez-moi la tautologie, mais soit c'est des syndicats, soit c'est des associations. Quand Isidore parlait par exemple des revendeuses, tout ça, elles aussi sont organisées en association. Et donc, à partir de ce moment, chaque association se dit, oui, le 1er mai, c'est la fête du travail. Arrêtons-nous un moment et essayons de voir ce qui s'est bien passé et ce qui ne s'est pas bien passé, et voir dans quelle mesure nous pourrons essayer d'améliorer nos conditions de travail et de vie. Et hier, par exemple, Sam parlait du gouvernement qui a communié avec ses partenaires sociaux qui sont les syndicats.
Il y avait également le patronat, hein.
Le patronat également. Il y a eu des revendications qui concernent tout le monde. Par exemple, on parle de l'assurance maladie universelle, et que le secteur informel aussi doit bénéficier. Et donc je crois que dans tout ça, il faut que les gens arrivent à quand même se poser des questions sur le travail qu'ils effectuent. Je crois que c'est le sens même qu'on donne à cette fête du travail.
Merci. Donc c'était la fête hier, le protocole entre l'État et ses partenaires sociaux, et puis la fête, la bouffe, la boisson, la danse, les réussantes. Mais il y a quand même un milieu où la tête n'était pas du tout à la fête, plutôt à la réflexion. Il s'agit des enseignants du supérieur, notamment du syndicat de l'enseignement supérieur du Togo, qui s'est retrouvé hier pour réfléchir. Sur la base de ce que le confrère L'Échiquier écrit, Université de Lomé, les dessous de l'affectation du secrétaire général du CEST. Bon, il y a quelques jours, le ministre de l'Enseignement supérieur a pris la décision d'affecter le secrétaire général du CEST de l'Université de Lomé à l'ENES d'Atakpamé. Alors, cela suscite des remous. Peut-être que dans les jours à venir, nous saurons le pourquoi et le comment de cette affectation et la réponse peut-être que le CEST est en train de préparer. C'est un sujet qui est en incubation et que nous annonçons juste pour le moment, le temps que nous connaissions le développement. Isidore,
non, hier même, ils ont eu, et c'est là où moi je les félicite, c'est les intellectuels. Et hier, ils ont profité de cette journée du travail pour discuter des problèmes et qu'ils rencontrent dans leur milieu. Mmh. Et c'était une journée de réflexion à Agora Senghor, j'y étais. Et j'ai suivi ça de bout en bout. Ils ont fait une déclaration que je vais publier demain. Et donc, voilà. Et ils se sont allés jusqu'à dire que, bon, si on arrivait à museler les enseignants du supérieur, qu'adviendra-t-il au pays ? Qu'ils subissent des intimidations et des affectations punitives, comme c'est celle du secrétaire général.
Ouais.
Et ils ne sont pas contents. Hier, toute la sommité des enseignants de l'université, que ce soit de Kara, de Lomé, se sont réunis pour plancher sur le problème. Et imaginez que c'est des trucs qu'ils voulaient faire depuis dans les amphithéâtres de l'université, mais on ne leur a pas permis de le faire. Ils étaient obligés de se rabattre sur Agora Senghor pour pouvoir organiser. Imaginez un syndicat de l'enseignement supérieur qui n'arrive pas à s'exprimer. Je ne sais où nous allons.
Merci. Y a-t-il un réel malaise au sein des enseignants du supérieur? Est-ce qu'il y a quiproquo entre ces enseignants et le ministre de l'enseignement supérieur? Nous sommes en train de collecter les éléments. Dans les jours à venir, nous pourrons y consacrer beaucoup plus de temps. Sam Diobo, une indiscrétion à partager avec nous?
Non, pas une indiscrétion, mais pour dire que l'affectation du secteur général du CEST, en réalité, quand vous êtes dans l'administration, il y a cette phrase qui dit que vous pouvez être affecté partout où besoin sera. Mm-hmm. Il y a ça.
Ça c'est l'armée.
Il faut. Non. Pas seulement dans l'armée. Non, mais quand on est enseignant ou quand on est.
Quand on te déclasse.
Non, attends. Je suis en train de venir. Ça dit que, à la base, l'affectation ne pose pas de problème, puisque lui-même, il sait qu'on peut. Il peut être muté partout où besoin sera. Maintenant que cela arrive à un secrétaire général d'un syndicat, Monsieur Rounsi Aï, je crois que c'est son nom.
Oui, oui.
Rappelez-vous, entre-temps, pour les mouvements des enseignants, il a été pointé d'un doigt accusateur comme étant celui qui réveille les enseignants qui font des revendications parfois même violentes des enseignants qui refusent d'aller travailler. Et donc, dans l'opinion, cette affectation est perçue plutôt comme un règlement de compte du ministre à cet enseignant du supérieur. Maintenant, il doit falloir peut-être que s'il y a des explications à donner, surtout par rapport à la sortie des membres de ce syndicat hier, je crois que le ministre, s'il a des justificatifs ou des justifications à donner par rapport à cette affectation, je crois qu'il doit, c'est le moment ou jamais. Mais en même temps, on fait le procès au ministre, non seulement de l'avoir affecté, mais aussi et surtout de l'avoir, enfin, comment on dit, il l'a relevé du corps des enseignants-chercheurs. Oui. Et c'est ça même qui blesse le syndicat est aujourd'hui vent debout, parce qu'on peut le muter, ce n'est pas un problème. Mais venir à le relever du corps des enseignants-chercheurs, cela pose un problème. Et c'est ça qui donne de la graine à moudre à ceux qui pensent plutôt que le ministre est dans une logique de règlement de compte.
C'est un sujet un peu en incubation. Nous y reviendrons quand nous aurons des éléments beaucoup plus probants, aussi bien de la part du ministère que de milieux universitaires, notamment de ce syndicat.
Alors, moi je vais
Eric?
Déjà poser la question. Cette mutation, est-ce qu'elle est motivée? Il faudrait qu'on en sache un peu. Maintenant, relever quelqu'un de son domaine d'activité qui est la recherche, et qu'est-ce que cela sous-entend? Et donc, je dis tout simplement que aujourd'hui, il y a une dynamique qui est mise en place et qui permet quand même à.
Et cette dynamique, c'est le dialogue, la concertation.
Voilà, la concertation.
Comme le ministre Bavara, les employeurs, les syndicats l'ont rappelé hier.
Je pense qu'il y aura toujours une solution à tous les problèmes que poseront toujours les syndicats. Et je ne comprends pas pourquoi ce syndicat-là des enseignants du supérieur, ce syndicat-là est doigté à chaque fois. Il faut à un certain moment essayer d'aplanir les choses. Oui, c'est un syndicat qui veut également l'avancement du pays, le développement du pays. C'est eux qui se chargent d'éduquer les enfants qui sont la relève de demain. Et donc, si à chaque fois, au lieu d'être sur le terrain et enseigner les enfants, ils doivent se préoccuper de leur situation, je crois que l'enseignement va subir un coup.
Merci.
Il faudrait que comme je l'ai chaque dit, partie essaie de trouver
quand même... Nous sommes en train de récolter les éléments d'appréciation. Nous y reviendrons.
Ils ont touché du doigt un problème, et je ne vais pas y répéter ici, c'est la dispensation des cours en ligne.
Oui,
se pose la question, oui, est-ce que ça code d'actualité?
C'est une annonce que nous faisons, hein. Nous posons des questions, nous allons plutôt aller à la quête. Quand nous aurons trouvé des réponses aux questions que nous nous posons, nous reviendrons ici pour faire un débat vraiment alimenté. Nous sommes déjà au quatrième jour du recensement électoral. Alors, c'est pas... si je vous demandais si vous avez déjà vos cartes d'électeurs sur vous ici. Sam Diobo, pas encore.
Non, moi, je vais le faire cet après-midi.
Ok. Et Isidore?
C'est un parcours de combattant. Hein. Je te montre.
Tu as la carte sur toi. Tu es un bon citoyen. Et Eric?
Oui, je me suis déjà inscrit ce matin parce que, franchement, je pense que ce truc-là...
Non, tu as la question. Est-ce que tu as ta carte d'électeur?
Non, je suis allé m'inscrire ce matin qu'il fallait s'inscrire sur une liste.
Oui.
Et donc, moi, autour de 7 heures déjà, quand je suis arrivé, j'étais le 55e.
À 7h00.
À 7h00. Ça veut dire que...
C'est demain que tu passes.
Voilà. Non, ça veut dire qu'il y a de l'engouement. Oui. Cependant, franchement, je pense que ce truc-là est déjà mal organisé.
Non. Faisons le constat d'abord.
Oui. Le constat...
Bon, quand je pose la question, fais mon tour. Moi, je suis allé m'enrôler hier à Haute. J'ai ma carte d'électeur sur moi. Et j'espère que ceux qui sont derrière la vitre et que tous ceux qui nous écoutent, chacun va s'empresser d'aller se faire enrôler. Dans la zone 1, l'opération qui a commencé le 29 avril prend fin le samedi 6 prochain. Au samedi 6 prochain, est-ce que toute la population du Grand Lomé, de la région maritime, aura réussi à se faire enrôler? Le confrère L'Échiquier parle d'une relative affluence dans les centres, mais avec le constat que les machines d'enregistrement sont lentes
et tombent souvent.
D'autres diraient il n'y a pas suffisamment de kits dans les centres. D'autres diraient encore que ces kits tombent déjà un peu trop en panne. Et avec ce qu'on a noté à l'image de Eric, déjà des queues interminables qui risqueraient de décourager les citoyens qui voudraient se faire enrôler, alors que Lomé et la région maritime constituent le plus gros pourvoyeur d'électeurs. Alors, est-ce que cette élection peut ne pas réussir? Autre question, autre journal qui s'intéresse, c'est Liberté avant Liberté, un petit tour sur les quatre premiers jours de recensement. Alors Isidore, toi qui as réussi à obtenir ta carte, veux-tu nous dire comment ça s'est passé là où tu es allé et ce que tu regardes déjà autour de toi?
C'est dès le premier jour, le samedi, j'y étais à 8 heures et imaginez que il y a un problème logistique. Les kits étaient venus très en retard. Vers 9 heures, les salles n'étaient pas disponibles. Le temps d'arranger toutes ces choses, de mettre les choses en place, il sonnait déjà 10 heures.
Alors que les gens attendaient déjà.
Bon, quand moi j'ai eu l'opportunité d'accéder à la salle d'enrôlement, j'ai chronométré, j'ai fait 45 minutes avant d'avoir la carte. Donc, j'étais allé là-bas vers 8h. Je revenais à la maison à 13h45.
Tu as mis toute ta matinée, toute une demi-journée.
Demi-journée. Mm-hmm. Et les gens rouspètent. Les gens sont découragés. D'autres disent que si ça n'est ainsi, je vais rentrer. Donc, il a fallu que l'on dise que non, c'est maintenant que la machine a commencé et sa vitesse de croisière viendra au jour le jour et que ça va aller. Mais, pas plus tard qu'hier, c'est le même rythme. Mm-hmm. Et les gens s'énervent. Là, il va falloir communiquer, en appeler à la, comment dirais-je, au civisme des gens pour que
Donc, le constat, c'est que les populations commencent déjà à répondre à l'appel de se faire recenser. Mais l'autre constat, c'est que il n'y a pas suffisamment de kits. Ou bien les kits sont trop lents.
Oui.
Ou bien ces kits tombent déjà en panne. Et les gens, ils mettent, à l'image de Isidore, passer toute une demi-journée avant de se faire enrôler. Sam Diobo, il y a vraiment urgence à ce que la CENI et les CELI apportent des réponses diligentes.
Oui, moi je dirais que la CENI sera impardonnable si de ce genre de problèmes surgissent. Ce n'est pas la première fois qu'on fait le recensement dans ce pays. Désormais, nous sommes habitués. Les kits, on avait parlé de ZTS. Ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire que si c'est un nouveau matériel que la CENI a introduit dans le système, on peut comprendre qu'il y a des défaillances. Mais c'est des outils que vous utilisez tout le temps. Et vous savez qu'il
depuis 2007.
Oui, qu'on utilise les mêmes outils. Vous savez qu'on a un recensement à une date donnée. Une semaine avant la date, il faut réchauffer les machines. Il faut les passer à la maintenance. Pour qu'on n'ait pas ce genre de problème. Maintenant, vous devez respecter un calendrier. Pendant une période, vous êtes dans le Grand Lomé et dans la région maritime. Après, il faut déployer les mêmes machines à l'intérieur du pays. Et maintenant que le retard est en train de se sentir au niveau de Lomé, comment ça va se passer? Ils vont proroger la date ou alors, à arriver à échéance, ils vont transporter les machines et aller faire ailleurs. Moi, je pense qu'au niveau de la CENI, il faut qu'on arrête de jouer à l'amateurisme. C'est-à-dire qu'ils doivent être professionnels. Il y a des gens qui sont des techniciens de la CENI et qui ont des postes permanents. En réalité, eux, la tâche leur incombe à la veille, à l'approche des recensements, de mettre les machines, de duler les machines pour qu'on n'ait pas ce genre de problème. Parce que moi, je ne pense pas qu'on puisse leur excuser ces erreurs qu'ils sont en train de commettre.
Alors, je rappelle la pensée du jour, quand Einstein nous écrit que la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Eric, Sam le rappelle tantôt, nous faisons ces recensements biométriques depuis 2007. Ça fait combien d'années déjà? Et je connais des gens membres de la CENI.
16 ans.
Des gens, il y a certains membres de la CENI qui sont là-bas en poste depuis plus de 10 ans. Donc ils sont censés connaître la machine. Alors comment on peut s'expliquer comment on peut expliquer encore la lenteur de cette opération à son quatrième jour?
Il faut qu'on pose la question à la CENI, parce que ça, ce qui se passe, d'abord, l'organisation de ce recensement. Nous savons tous que ce sont les écoles qui sont
les centres de recensement.
Qui sont les centres de recensement. Mm-hmm. Aujourd'hui, les enfants sont déjà à l'école. Et on bloque peut-être certaines classes, salles de classe, pour faire le recensement. Les enfants vont étudier où? Ça, c'est la première question. Pourquoi, sachant très bien que les élections, c'est pour peut-être 3 mois, 4 mois, pourquoi...
Et là encore, ni la CENI, ni le gouvernement ne donnent encore aucune idée de la date, de l'une ou l'autre élection.
Donc, pourquoi ne pas prendre les week-ends, les jours fériés, pour organiser ce recensement? C'est la première question. La deuxième question, vous savez qu'il y a eu des soucis au cours du dernier recensement, et après il y a eu la crise sanitaire à coronavirus, où certains n'ont pas bénéficié du programme Novici, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas leur carte d'identité ni leur carte d'électeur. Aujourd'hui, tout le monde se dit, attention, peut-être qu'il y aura encore un programme Novici. Donc, il y a cet engouement-là, tout simplement à cause de ces premières difficultés qu'on a eues. Et hier soir, quand moi je voulais aller me faire enrôler, quand je suis arrivé, j'ai vu le monde, je me suis dit peut-être ça va descendre et que ce matin, très tôt, je pourrais le faire. Quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'on m'a dit? Vous vous enregistrez sur une liste parce que ceux qui s'étaient enregistrés hier, c'est eux qui seront servis aujourd'hui. Mmh. Encore qu'il faut se demander si on pourra finir ce nombre-là avant nous qui sommes arrivés aujourd'hui.
Si chacun doit faire 45 minutes comme Isidore.
Non,
c'est voilà. Pas évident que
oui.
Alors, là, tu puisses être servi aujourd'hui.
Ça, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai contourné un peu la salle de classe où cela se passait pour voir comment s'effectuait l'enrôlement. Mm-hmm. Ça, il y a 4 personnes qui sont appelées dans la salle et qui attendaient. Je suis resté là jusqu'à 8h15. Le premier n'est pas encore sorti.
Pourquoi on est sorti, c'est pas bien.
Alors, pourquoi ce retard? Mes confrères l'ont déjà dit. On a déjà eu à faire ce genre de recensement et il devrait normalement se passer comme si c'était un truc. Mais ça, sur le terrain, il y avait qui? Il y avait les opérateurs économiques et de saisie qui étaient là et qui posaient encore des questions aux gens. Les gens sont venus avec leurs anciennes cartes.
Oui.
Les gens sont venus avec leur carte d'identité et tout ça. Il y avait les informations. Quelles formations ont reçu ces opérateurs économiques? Est-ce qu'on a changé
de saisie?
Opérateurs de saisie, pardon.
Oh, l'aime trop l'argent,
quoi. Oui, voilà quoi. Donc, excusez-moi. Et donc, quelles formations ils ont reçu cette fois-ci? Est-ce que c'est les mêmes qu'on a repris ou bien on est allé chercher d'autres et ça pose le problème?
On nous a dit qu'on a sélectionné. Hier, j'ai vu que les gens, beaucoup d'opérateurs de saisie ne maîtrisaient pas le clavier. Ils cherchaient les boutons.
Le constat au quatrième jour, ce n'est pas fameux. Ce n'est pas fameux. Il y a la dynamique, la DMP, la dynamique de la majorité
du peuple.
Qui a mis sur pied un système d'éveil et d'éveil. Et quand vous allez sur leur page, le constat n'est pas du tout bon. Alors, comme je pense que c'est Sam qui a tout dit, la CENI n'aura pas de raison de nous expliquer que le recensement électoral de cette année 2023 ne marche pas.
Oui, mais ça, il y a une autre situation qui interpelle même les membres de la CENI. Parce que tout se passe comme si, au niveau des opérateurs de saisie, les lenteurs là peuvent être peut-être c'est un sabotage ou c'est une façon pour eux de faire traîner les choses et de continuer par percevoir les perdièmes. Ça, c'est une première situation qui peut se poser. La deuxième situation, c'est qu'au niveau de la CENI, ce matin, je feuilletais un peu les journaux, il y a un journal qui relevait que les véhicules qui ont été remis au président des CELI sont des véhicules inadaptés aux zones accidentées.
Oui.
Et donc, c'est comme si la CENI faisait un peu économie sur le budget qui lui est alloué pour, à la fin de l'opération, peut-être avoir beaucoup plus de réserves ou beaucoup plus de bénéfices. Parce que figurez-vous que même cette opération qui est en train d'être conduite, la presse n'y est pas associée. Aucun journal, aucun média n'est associé à cette opération. Alors que par le passé, quand il y a une opération de recensement ou même dès que le processus est lancé, il y a les médias qui sont associés, il y a un partenariat, il y a un travail de sensibilisation qui est fait.
Tu es rentré dans ma langue.
Voilà, donc ça dit que tout se fait comme si les actuels membres de la CENI sont en train de faire un business et qu'à la fin, ils veulent avoir un grand bénéfice. Parce qu'on parle des véhicules des présidents de CELI, on parle de la presse, tout ça là, je crois que ça ne réconforte pas le président même dans sa position de président de la CENI.
En tout cas, c'est Liberté qui a écrit ce matin à la page 4, des véhicules usagés, inadaptés, affectés au président des CELI. Mais pour ce qui est des opérateurs, je me rappelle, il y a quelque temps, lorsque la CENI formait les OPS, à Togo 2000,
oui, oui.
J'ai surpris, j'ai écouté un reportage de la, hein, de la TVT où le président Dago Yabré, hein, disait clairement que si un technicien, si un opérateur se révélait inefficace à l'œuvre, il le renverrait. Ouais. Sans procès.
Mmh.
Ça veut dire que on ne peut pas avoir pris tout cet engagement, on ne peut pas être dépositaire de tas d'expériences et qu'on nous dise que les opérations de recensement, hein, ne marchent pas bien. Surtout dans la partie sud, la zone numéro 1, qui est la plus grande pourvoyeuse
d'électeurs.
Mmh. Si l'opération ne marche pas bien d'ici le 6 mai, alors est-ce qu'on prolonge avec les conséquences économiques et financières, ou bien est-ce qu'on arrête là au risque de susciter des remous, Monsieur Dago Yabré et vos amis?
S'il vous plaît,
vous n'avez pas le droit de rater, hein, cette opération.
Il faut qu'on s'y attende.
On va terminer rapidement avec le cas, le comité d'action pour le renouveau qui a vraiment du mal à redémarrer. Liberté qui écrit par exemple. Succession de Maître Agboibo, les militants du CA, profondément divisés, se chamaillent. La succession et la gestion des partis politiques togolais en question. Le premier congrès du CA, après la disparition de son président fondateur, a tourné court. Une triste scène qui remet au goût du jour la question de la succession et de la gestion des partis politiques au Togo. L'échiquier également qui écrit... Hein, l'agboïboïsme vole en éclats, hein, des coups de poing dans les figures, des micros qui s'arrachent dans le désordre, des cris de désapprobation des congressistes, des candidats qui n'arrivent pas à s'harmoniser, hein, sur la succession. Voilà le parti laissé en héritage par le Bélier Noir, celui qui se voulait même le champ du dialogue comme comportement politique. Voilà ce parti qui se figure en direct sur les réseaux sociaux. Ils sont de la couleur.
Ah, c'est bien dommage. C'est ce qui arrive aux partis qui sont dirigés par notre chef de parti, M. Daguru. La succession n'a pas été préparée. Et le même problème s'est posé dans une autre mesure avec la CPP. Vous vous souvenez des tiraillements entre à côté Beleki et le banque.
Monsieur Akoli.
Donc voilà.
Sinon, quelque part, Beleki a dû faire un coup d'état en Colombie pour prendre sa place.
Donc ça se pose un véritable problème de gestion de nos partis politiques. Ça n'échappe personne. Hein. Vous avez vu même le RPT à l'époque, quand Yadema était décédé, les gens se sont empressés pour propositionner son fils. D'autres sont montés au créneau. Aujourd'hui, on sait ce qu'ils sont devenus. Donc voilà,
qu'est-ce qu'ils ont devenus?
Ils ont été virés. Ils ont été virés. Ils ont été virés. Ils ont été mis en minorité. Donc ça guette tous les partis politiques. Et je ne sais pas ce qui va advenir aux autres partis politiques comme l'UFC, l'ANC, au cas où on en venait à faire un changement du dirigeant. Donc nous n'avons pas encore cette culture de pouvoir faire la
alternance. Le cas Agboibo qui se voulait le chantre du dialogue, voilà comment s'illustre les siens à son tout premier congrès après sa disparition physique.
Isidore vient de dire un truc qui va faire rire les gens, mais c'est la réalité que nos chefs de partis politiques sont carrément des gourous. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous savez, dans aucun parti politique dans ce pays-là, les gens ne cotisent. Lorsque vous cotisez et que le partage des postes se fait sous la base du mérite et que des gens ont des cursus politiques bien définis, je pense que ce problème-là est normalement résolu. Aujourd'hui, les partis politiques sont financés entièrement, totalement, par leur chef, c'est-à-dire le président du parti. Ce qui fait que les autres membres du parti n'ont pas de voix. Et là, comment dans ces conditions, on peut préparer une succession? Impossible. Lorsque les gens sont à un congrès et on leur interdit carrément de discuter de la succession, mais la charte des partis politiques également ne demande pas que les successions se fassent, je crois, après deux mandats ou je ne sais combien. Non,
oui.
Non, ça n'existe pas. Les gens sont là, ils sont là.
À vie.
À vie. Et c'est quand peut-être ils décèdent ou ils sont. Regardez ce qui se passe à l'UFC aujourd'hui. J-Chris étant complètement fini en quelque sorte parce que il ne propose plus rien, mais déjà sa succession crée un problème. On dit le président n'est pas là, qui doit logiquement s'occuper du parti? Le premier vice-président étant décédé, on dit que ce n'est pas le second vice-président. Alors c'est qui? N'importe qui.
Et l'affaire est pendante maintenant.
Si on devant les tribunaux. Il est midi, on va écouter et aussi ça en une minute. C'est vrai que le temps nous manque d'en parler beaucoup.
Non, je pense que le congrès du CAR des 29 et 30 avril ont consacré la seconde mort de Maître Yaovi Agbouibor. Je m'explique parce que en réalité, Maître Yaovi Agbouibor, la situation qui prévaut au CAR, lui-même, il en est responsable. Parce qu'il a, il devrait rentrer dans l'histoire au moment où il a passé la main à Maître Apevon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si il avait laissé Apevon continuer de diriger le CAR, aujourd'hui, on ne devrait pas vivre cette situation. Mais c'est parce qu'il a fait un micmac ou un kick and back pour retirer la présidence du parti Chemet Dodi Apevon pour revenir prendre les destinées de ce parti. C'est ça qui
la conséquence Apevon et les siens étaient partis,
ils sont partis
pour aller créer les FDR.
Même là aujourd'hui, après sa mort, il y a une autre division qui ne dit pas son nom. Souvenez-vous de Toby Dagbon qui parlait de watisation du CAR. C'est-à-dire qu'au CAR il y a les Wati et il y a les autres. C'est-à-dire, les Wati, c'est les gens qui étaient, le noyau qui était autour de Maître Yaovi Agbouibor, parmi lesquels l'un des candidats à la succession de Maître Yaovi Agbouibor. Et il y a les autres Wati qui sont de Vaux, notamment Jean Kissi. Il y a Togui Dagban qui est de Bay. Et il y a une autre dame qui est des Lacs.
Oui.
Donc, en réalité, c'est ce foisonnement-là qui devrait faire la force du parti. Mais au sein du CAR, ce n'est pas le cas parce que il y a les Wati qui se disent qu'ils sont les héritiers biologiques. Et ça dit que c'est à eux que revient la direction du la présidence du CAR automatiquement. Et donc les autres,
Colani n'est même mis en minorité.
Oui, ça dit que lui, il n'a même pas de voix. Et quand logiquement
lorsque Agbouibor
décède dans l'organigramme de parti politique, après le président, il y a le vice-président. Et au niveau du CAR, comment ça se passe? Le vice-président, son rôle c'est quoi? Il devrait gérer les affaires courantes jusqu'à ce qu'un congrès décide du choix de notre président. Mais là-bas, l'organigramme est foulé aux pieds. Et pour rebondir maintenant sur la situation des autres partis politiques, aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'Alliance nationale pour le changement, c'est parce que Jean-Pierre Fabre, il est encore en vie, que tout semble comme s'il y avait une certaine cohésion au niveau de l'ANC. Le jour où Jean-Pierre Fabre n'est plus de ce monde, je ne le souhaite pas de si tôt, mais il y aura les mêmes situations que ce que le
CAR verra, de vivre. On verra.
Au niveau de l'UFC, bien que Gilles Christ soit vivant, regardez ce qui se passe
au niveau de l'UFC. Mais à côté, il y a quand même deux partis qui ont réussi leur alternance dans la douceur. Hein,
La CDPA, par exemple.
Bien sûr. Maître Abi Kessa a passé la main au professeur Komi Oulu en douceur. À la CDPA, Ninenvi a passé la main à Madame Rita Diango Johnson. Ninenvi était d'ailleurs au congrès de la CDPA dernièrement. Voilà, il est midi, passé de 4 minutes. Les auditeurs nous excusent, on a pris un peu de leur temps. À présent, nous nous disciplinons et nous allons à la pause.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Il est midi, passé de 6 minutes à présent. Nous ouvrons les micros à vous, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75. La parole est à vous, le premier de la classe. Bonjour, oui.
Oui, c'est Sylvain.
Oui.
Et pour le recensement,
oui.
Ça, il y a tellement de problèmes. Et ça commence à décourager.
Mm-hmm.
Moi, j'ai quand même eu ma carte dès les premières heures.
Oui.
Le samedi. Mais c'était un coup de combattant.
Alors, quel problème concrètement?
Les machines tombent en panne.
Oui.
Quand ils impriment une carte, il faut attendre au moins une demi-heure avant que l'autre personne ne passe.
Donc, les machines tombent en panne, l'opération est trop lente.
Trop même.
Uh-huh. Ensuite?
Ensuite. Franchement, l'organisation. S'il faut businesser avant d'avoir la carte, il y a problème.
Mmh.
Oui.
Ah bon, il y a du business qui se fait.
Oui, s'il faut
business. Ça dit quand les gens arrivent, il faut faire du business avant de se faire enregistrer.
Il faut businesser.
Et qui fait ça? Qui fait le business là-bas?
Bon, après on va en parler.
Non, nous sommes en direct. Alors, nous sommes en direct, nous avons besoin de partager les informations vraies pour que chacun s'interpelle et se sente interpellé.
Quand vous arrivez en retard,
oui.
Il faut se mettre dans la queue.
Oui.
Déjà, passe par des connaissances pour établir la carte. D'autres s'énervent parce qu'ils arrivent très tôt et d'autres les dépassent pour établir leur carte.
Voilà. Hein? Donc, quand nous étions à l'université, quand on faisait la queue au restaurant, il y a des gens qui venaient intégrer, c'est ça?
Si.
Donc, vous êtes dans la queue, mais des gens viennent en retard, mais ils intègrent par la complicité des membres de...
Même samedi, c'était passé comme ça. Devant moi, ils demandaient, je ne savais pas qu'il faut présenter une naissance ou bien un jugement, une nationalité. Moi, j'ai ma carte, ma ancienne carte. J'arrive, on me dit nationalité ou bien naissance. Je suis obligé de courir à la maison prendre ma nationalité. Quand j'arrive, j'étais la sixième personne. Quand j'arrive, déjà, il y a assez de monde. Mais en partant, j'ai dit à mon second, qui est devant moi, que je suis derrière toi. Mais quand j'arrive, c'est comme...
Merci beaucoup pour ce témoignage de Sylvain Agbayi. Nous attendons beaucoup, hein, s'il vous plaît, des éléments avérés, hein, pour aider la CENI et ses démembrements à se rattraper au plus tôt. Bonjour, l'ami en ligne.
Bonjour, monsieur Chan.
Oui, c'est monsieur?
C'est Kofi de Sawado.
Oui, nous écoutons.
Oui, je vous remercie. Je remercie le plateau. Ce matin, vous avez très bien parlé de sujets que vous avez mis sur la table. Ce que moi, je vais dire à propos du recensement, je me suis déjà fait inscrit quand même. Hein.
Mm-hmm.
Je l'ai fait le dimanche, je crois. Je suis allé le samedi, je suis retourné le lendemain pour le faire.
Ah bon, deux jours.
Dans notre zone, tout se passe bien. Bon, l'argent, remettre l'argent pour se faire enrôler avant l'autre, on n'a pas encore vu.
Mm-hmm.
Mais ce que je veux dire, vous l'avez déjà dit là-bas, qu'on déplore vraiment l'état des machines.
Mm-hmm.
Mais je dirais à la CENI que si le samedi, il y a des gens qui veulent se faire enrôler encore, ils ne vont pas ramasser la machine. Là, ils n'ont qu'à apprêter les gaz.
Non. Pas de menaces, pas d'intimidation. Mais relevons les problèmes. Ce sont de grandes dames, ce sont de grands messieurs à la CENI. Ils en tireront eux-mêmes la conclusion.
D'accord. Là, ils n'ont qu'à tirer les conséquences.
Ce qu'il est en train de dire,
oui.
Au fait, c'est que à la fin de l'opération, à la fin de la journée,
oui.
On reprend les machines. Et le lendemain, il faut les réinstaller. C'est ce qu'il est en train de dire.
Non, il dit le samedi.
Oui.
Si on n'a pas fini de recenser tout le monde, ils ne vont pas remporter les machines.
Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ramasser les machines et ramener ça le lendemain pour les installer.
Mais maintenant, on ne peut pas garder les machines comme ça.
Voilà.
Dans les salles de classe qui n'ont pas de porte, qui n'ont pas de fenêtre.
Voilà, c'est ça.
C'est un crâne de sécurité.
Oui.
L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sal.
Oui, c'est monsieur?
C'est Maouko depuis Nukafu.
Maouko depuis Nukafu, nous écoutons.
Oui, à propos du recensement aussi.
Oui.
Hier, 1er mai, depuis 8 heures, bon, j'étais avec vous autres. Donc, je me suis dit que je dois faire ma carte avant.
Avant la fête?
Dans la journée d'hier, quoi.
Mm-hmm.
Et je suis allé aux environs de 8 heures comme ça.
Oui.
Il y avait mon fou. Et puis, bon, comme vous me faites savoir qu'il y avait des gens qu'on avait enregistrés.
La veille.
Samedi. Mm-hmm. Donc, on devait les enrôler d'abord avant le 2 dimanche.
Oui.
On était là, le président, tantôt le président du bureau.
Oui.
Parfois, il sort, il va la demander, il raconte, je suis venu là-bas et puis il rentre. Et puis vous êtes là, et d'autres qui viennent en retard, ils rentrent, on les enroule.
C'est ce que Sylvain appelait tantôt du business qui se fait sur le dos des électeurs.
Effectivement.
Mm-hmm.
C'est du business. Et puis, on était là, on est venu ramasser nos cartes, on nous a inscrits sur des listes, on nous avait appelé, on nous dit de rester dans la queue. On était là-bas, d'autres viennent.
Bon, finalement, vous avez passé combien de temps avant de vous faire délivrer votre carte?
Monsieur Sassou, je vous assure, toute la journée, j'écoutais 17h, 3, au moment où la machine était arrêtée.
Donc, de 8h, vous avez dû attendre de 8h à 17h pour avoir votre carte.
De 8h à 17h, je ne me suis pas fait enrôler.
Ah bon, et même pas? Ce n'est pas normal.
Je suis revenu aujourd'hui ce matin à 6h, je vais dire non.
Merci, Limaoukou. Ce n'est pas normal qu'on passe toute la journée sur les lieux et qu'on ne puisse même pas avoir sa carte. Merci beaucoup pour ce témoignage, Limaoukou. Le suivant, bonjour. Allô? Allô, l'ami, oui.
Allô, mon directeur, bonjour.
Papa Sibeti.
Ah, c'est quand? Je n'espère pas. Que je rentre, vous me donnez la ligne.
Ok, maintenant vous êtes en ligne.
Vous savez, au Togo, cet héritage-là, c'est moi. Vous voyez ce qui se passe. Que les gens s'entendent et qu'il y ait harmonisation. Vous voyez, dans le car, partout vous venez de citer. Non, il faut que le Togo, les gens aussi, sachent qu'après moi, c'est celui-ci qui doit prendre ma place.
Mm-hmm.
Ou bien je m'en, mon directeur.
Oui.
Bon, que Dieu vraiment leur donne un cœur humain. Merci beaucoup.
Je vous en prie, Papa Sibeti. Le suivant déjà, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Vous avez Hakim.
Pardon?
Hakim.
Hakim, nous vous écoutons.
Bien, voilà. Moi, j'ai juste une suggestion à faire à la télé.
Oui.
C'est que les gens qui ont le système 4, puissent en plus reposer, quoi. Parce que sinon, le fait de repartir 5 ans à chaque 2 ans, c'est compliqué. Alors qu'on a fait beaucoup de choses. Donc, ça facilite le besoin. Moi, j'ai passé.
La communication n'est pas très claire. Je ne sais pas si notre ami appelle par WhatsApp, mais la qualité n'est pas au rendez-vous.
C'est pas par WhatsApp.
Ah, mais nous avons du mal à bien vous écouter.
Vous ne m'écoutez pas, c'est bon maintenant?
Ok, allez-y.
Bon, donc je disais que quand les gens qui ont les anciennes cartes, qu'ils continuent par les utiliser, et puis bon, qu'on puisse enrôler les nouveaux facilement. S'il faut à chaque fois reprendre trois fois, à chaque 3 ans, à chaque 5 ans, c'est compliqué. Et c'est pour cela qu'on traîne. Moi, je fais 3 fois le tour là-bas, hier, samedi, dimanche, et puis lundi, avant d'avoir ma carte. Et
c'est dans quel quartier, s'il vous plaît?
C'est compliqué.
Dans quel quartier, s'il vous plaît?
À Didogomé. Voilà, moi, je me suis fait enrôler à Wanyomé.
À Wanyomé. Mais après y avoir passé 3 jours.
Oui, c'est ça.
Merci pour la patience.
Merci bien.
L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Commis.
Oui.
J'ai 2 sujets. Le premier, c'est l'édition de la carte d'électeur.
Mmh.
Je suis dans la zone Zanguera. Samedi, j'ai pas pu le faire parce que la mise en place n'a pas été le cas. Hier, j'ai été celui qui saisissait, c'est avec un doigt. Donc, ça nous a beaucoup tapé.
Mmh.
J'ai pas pu le faire. Mais sur l'ensemble des activités, moi, je ne veux pas que la presse togolaise soit le parent pauvre. Pourquoi je le dis ? Je circule dans la ville ce matin, pas de pancarte, pas d'émission. Je ne sais pas si dans vos émissions, Ceni est déjà passé pour des émissions. Dans vos journaux, je ne sais pas s'ils ont payé des pages. Ça voudra dire que la Ceni n'a pas de budget pour ça. Et je ne le pense pas. Je suis resté attristé et je ne le conçois pas bien. Le second sujet, c'est par rapport au travail. Vous l'aviez dit en le relatant que le travail éloigne de nous les trois mots. L'ennui, le vice et puis le besoin.
Oui.
Mais entre nous, Togolais, prenons le miroir et regardez dans ce miroir voir si réellement nous travaillons. La réponse est non. Et ce que j'ai vu hier, ça m'a beaucoup étonné. C'est comme si nous roulons dans l'ignorance. Au moment où nos aïeux, dans le temps, ont lutté pour 8 heures de travail, avec un revenu conséquent, aujourd'hui, on n'arrive même pas à jouir. Les gens qu'on a compiés en France, ils sont en train de manifester jusqu'à tel point qu'on a mobilisé 12 000 policiers pour les encadrer. Et ici, on n'arrive même pas à percevoir nos salaires et on se promène à la plage. C'est vraiment triste.
Merci. La plage qui a beaucoup souffert hier, hein. Heureusement qu'il y a les agents positionnés par les municipalités et la SAP. Sinon, la plage de Lomé était jonchée de détritus, de sachets. La plage, la pauvre plage, dirions-nous. Le Allô? Dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Adjovi depuis Bagida.
Adjovi, ça fait bien longtemps.
Ça fait vraiment longtemps.
C'est une femme de résurrection, Adjovi.
Oui, c'est au sujet de... carte de lecteur.
Oui, carte de lecteur.
Chez nous, à Bagida, le samedi, j'étais dans un centre sur les rails. À 10 heures, les machines ne sont pas arrivées, mais les gens viennent et repartent.
Mm-hmm.
Je suis obligé d'appeler le maire pour le demander pourquoi.
Mm-hmm.
Lui aussi m'a donné son explication, je n'étais pas convaincu.
Mm-hmm.
Le dimanche, et ça se déroule, mais les machines sont trop loin.
Mm-hmm.
Et les présidents qui sont dans la salle sont très, très, je ne sais pas comment dire, très zélés.
Mm-hmm.
Hier, j'ai fait ma carte. Je suis l'avant-dernière à faire la carte.
Oui.
Mais il y a des gens qui sont rentrés, ils ont leur carte et eux-mêmes, ils ont fait leur papier là.
Oui.
Normalement, ils doivent faire tout et tout pour terminer. Et nous qui sommes dans la salle.
Oui.
Mais le président a dit qu'il est 16 heures, que c'est terminé. Lui, il va aller fêter, 1er mai.
Ah bon?
Mais il y en a aussi des gens qui sont dans la queue. Donc, c'est terminé comme ça.
Et le président, il a plié ses clics, il est parti.
Il a dit aux autres de terminer, de ne plus faire la carte, que c'est 16 heures, lui, il va quitter. Donc, 16 heures, c'est fini.
Mm-hmm.
Vous voyez.
Merci.
Une semaine, ça ne peut pas.
Ok. En fait, c'est le bilan que nous faisons au quatrième jour. Ce bilan que nous esquissons, je crois savoir que les membres des CELI et les membres de la CENI également, et au-dessus, le ministère de la Santé territoriale, le gouvernement également, doit suivre ces opérations. Je ne doute pas que chacun saura en tirer les enseignements judicieux au moment opportun. Eh bien, chers amis, Sam, Isidore et Eric, voilà les auditeurs qui ont appelé. Presque tous ont évoqué l'opération d'enrôlement des électeurs. Une minute à chacun. Eric?
Oh oui, je crois que c'est tout à fait logique que l'opération de recensement intéresse tout le monde, tout simplement parce que, vous savez, c'est, comme on dit, l'élection... C'est un devoir civique et il faut que tous les citoyens arrivent à avoir leur carte d'électeur pour pouvoir accomplir cet acte civique-là.
Et après, peut-être qu'il y aura
un programme novicier aussi, on ne sait jamais. Et donc, vous savez que si vous avez votre carte d'électeur, et ça s'utilise à certains endroits comme une carte d'identité nationale. Mm-hmm. Et ça peut vous permettre d'avoir certains services. Et donc, je pense que c'est une opération très importante et il va falloir que la CENI s'y attelle bien pour que l'opération réussisse et que après il n'y ait pas des grincements de dents et que les citoyens soient déçus. Il va falloir que tous ceux qui sont en âge de voter aient quand même leur carte d'électeur.
D'autant plus, Isidore, qu'une fois n'est pas coutume, l'ensemble des partis politiques, associations, tout le monde appelle, tout le monde sensibilise à cette opération, mais on dirait que dans ce jeu-là, c'est les membres de la CENI qu'on ne voit pas. On ne les voit pas, on ne les entend pas, et alors que l'opération ne doit pas être un échec.
Évidemment, j'ai interpellé certains membres de la CENI pour leur demander, mais qu'est-ce qui se passait? Ils ont dit que, bon, la CENI apporte l'information aux partis politiques et il revient aux partis politiques de jouer leur partition.
Non, là, j'ai pas bien compris.
Que oui? La CENI apporte l'information aux partis politiques. Et c'est aux partis politiques de jouer leur partition en sensibilisant les membres. Et ça a été fait. Vous avez vu l'engouement. Les militants. Ouais. Je dis vraiment les militants. Et la population qui n'est pas membre.
Enfin, mais par le passé, on a vu les gens, les membres des CENI monter au front de la communication. J'en ai reçu plein de membres de la CENI bien avant les opérations de recensement.
Même les médias.
Ou bien on a une nouvelle CENI avec une nouvelle feuille de route.
Non, j'ai l'impression
qu'il y a
un problème autour de la gestion même de ces commissions. Les différentes commissions de la CENI.
Il faut le dire clairement. Il y a des affinités au niveau de la CENI. Les gens qui ne sont même pas chefs de commission reçoivent des injonctions la nuit et eux, ils travaillent pendant que les chefs de commission même ne sont pas au courant de rien.
Évidemment,
il
y a tous ces problèmes-là, mais
oui.
Je crois que ce serait très dommage que l'opération de recensement soit ratée.
Merci.
Et surtout que vous avez l'engouement, j'ai l'impression que c'est avec cette carte que nous allons et nous irons aux élections régionales, législatives et pourquoi pas présidentielles. C'est pas si il y aura révisions.
Peut-être des révisions. Mais ces cartes sont quand même parties pour durer au moins 5 ans.
Pour durer au moins 5 ans. Ce qui a fait que beaucoup de gens sont dans l'engouement d'y aller. Et ça sert de carte d'identité à beaucoup qui n'ont même pas de pièces d'identité. La plupart des Togolais n'ont pas de carte d'identité.
Merci.
Ils se servent de ces cartes d'électeurs pour au moins justifier de leur nationalité togolaise.
Ça ne devrait pas être ça. Tous les Togolais devraient avoir leur certificat de nationalité, leur carte d'identité nationale. Le fait que la carte d'électeur remplace par moment la carte d'identité, c'est une anomalie qu'il faudra corriger au plus tôt. Sam Diobo?
Qu'on a normalisé.
Non, c'est pas bien. Moi, je ne sais pas pourquoi Isidore, président d'une organisation de presse, fait dans la langue de bois. Le problème réel là-bas, c'est un problème de communication. Parce que déjà, dès que les opérations de recensement ont commencé, on devrait voir les membres de la CENI ou les gens qui animent les commissions faire le tour des médias pour expliquer à la population comment ça se passe. S'il y a des difficultés, c'est aussi à travers les médias qu'on va expliquer à la population. Maintenant, on commence une opération, la presse n'est pas associée, aucune stratégie de communication, même les panneaux d'affichage, difficilement vous allez les déceler dans la ville. Et ça, c'est un véritable problème qui plombe le travail de la CENI. Il faut que Isidore ait le courage de le dire. Tu es président d'organisation.
J'ai effectivement approché la
commission. Oui, mais ça dit qu'il y a des difficultés.
La commission, communication.
La CENI est invisible et inaudible. Ouais. Ce n'est pas tolérable en cette phase de recensement.
Ça se permet. On m'a interpellé. J'ai approché la commission communication. Et avec qui nous sommes en discussion, et j'ai l'impression que jusqu'à présent, les fonds ne sont pas encore débloqués.
Ah bien, que la CENI le dise.
Voilà.
Eh bien, monsieur Dossou, nous arrivons au thème de cette émission. Vous, hein, c'est Maître Kofi Dossou, vous êtes artiste peintre. Vous nous invitez à votre vernissage ce soir, émotion ancestrale. Et l'exposition qui court jusqu'au 17 mai prochain.
Oui.
Eh bien, votre mot de conclusion pour cette émission.
Oui, j'aimerais surtout remercier le centre, l'Institut Goethe, pour nous avoir donné cette occasion de présenter mes œuvres. Et je remercie tous nos partenaires et Canal FM aussi, et vous tous les journalistes. Je vous remercie pour nous avoir donné cette occasion de pouvoir parler de mes œuvres. Merci.
C'est un plaisir, et d'autant plus que vous nous gratifiez des cartes d'invitation au vernissage de ce soir. Merci à vous, monsieur Dossou. Merci à Isidore, Sam et Eric. Merci aux techniciens. Merci aux auditeurs. La semaine est lancée et nous retrouvons demain, mercredi, à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.
La laisser se battre, le contrôle.